Soignu. Toute cette semaine, Céline Duchesnay rencontre Catherine Robbe-Grillet. Ce soir, un aspect de petite fille et des instincts vicieux.
Un aspect de petite fille et des instincts vicieux. Voilà comment Alain Robbe-Grillet a qualifié son épouse Catherine Robbe-Grillet, avec qui nous passons toute cette semaine dans À Voix Nue. Catherine Robbe-Grillet, épouse de, mais aussi maîtresse de cérémonie érotique sadomasochiste, femme de référence en ce qui concerne le sadomasochisme, domaine dont elle a beaucoup parlé et sur lequel elle a écrit sous son nom de scène et de plume, Jeanne de Bergue. Parmi ses livres, on pourrait citer L'image et Cérémonie de femme. Bonsoir, Catherine Robbe-Grillet.
Bonsoir.
Nous poursuivons notre conversation démarrée hier où nous avons revisité en votre compagnie votre enfance, parlé de vos origines arméniennes, de vos études dans une institution religieuse qui vous ont donné le goût du martyr et de la souffrance rédemptrice, peut-être. C'est finalement la présence d'un prie-dieu dans votre salon qui peut nous mettre sur la piste du sadomasochisme aujourd'hui, un objet que vous aimez utiliser dans vos cérémonies érotiques et qui nous permet de faire un lien entre le monde de l'enfance et votre univers de femme adulte, vous qui êtes entrée dans le sadomasochisme grâce à un homme, Alain Robbe-Grillet. Alors peut-être qu'on peut revenir sur cette rencontre d'Alain et vous. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un coup de foudre?
Je n'ai jamais vécu de coup de foudre de ma vie. C'est peut-être le secret d'un certain bonheur d'ailleurs. Enfin bon, on pourra revenir là-dessus après, postérieurement. Oh, c'est à l'occasion d'un voyage en Turquie. C'était un échange d'étudiants entre Paris et le lycée Galatasaray, à Istanbul, qui existe toujours, où l'enseignement se fait en partie en français. C'était en été, c'était la première fois que je quittais la France, hein. Et ma grand-mère m'avait payé ce voyage pour aller en Turquie, où j'avais très envie d'aller voir, où mon père avait fait ses études et où il avait vécu quand même plusieurs années. Et donc, j'ai pris un train, et dans ce train-là, il y avait... Donc Alain, lui, qui répondait à une petite annonce d'un un colloque géographique à Izmir, ou quelque chose comme ça, assez fumeux, je dois dire. Donc on s'est rencontrés à la gare, en partance, pour Istanbul. Et nous étions tous les deux logés à Galatasaray, moi dans un dortoir de filles et lui dans un dortoir de garçons. Et c'est là que, assez vite, j'ai trouvé que c'était quand même un garçon intéressant. Et on s'est promené en ville, et je m'attendais quand même à ce qu'il m'embrasse, mais pas du tout. C'était assez malin, finalement. C'est-à-dire que la surprise était qu'il ne se passe rien. Nous avons donc passé des vacances là-bas, une ville que j'ai beaucoup aimée. Il dit que je me nourrissais uniquement de glace à la pêche. Et assez vite, je répondais quand même à... quelque chose qui faisait partie de ce qu'il aimait, les très jeunes femmes. Or, à l'époque, j'avais vraiment l'air d'avoir 12 ans. Quand on voit les photos de l'époque, entre autres celles qui figurent sur Jeanne mariée, j'ai déjà quand même plus de 20 ans et j'ai l'air d'avoir 12 ans. Donc, il s'est tout de suite intéressé à moi. Et je le trouvais intelligent, intéressant, et il s'est assez vite... ouvert sur ses pratiques sadomasochistes, ou en tout cas ses souhaits de relations sadomasochistes, parce qu'il n'avait pas tellement rencontré de répondants chez les femmes qui trouvaient que c'était ridicule et qui se moquaient de lui. Moi, ça m'intéressait, comme si j'étais un terrain tout préparé, si vous voulez. Vous me direz peut-être par mon éducation religieuse, moi je ne crois pas, mais je l'écoutais d'une oreille attentive. Mais je venais de vivre quelque chose qui était épouvantable, qui était cet avortement qui avait eu lieu cette année-là ou l'année d'avant, enfin, et j'étais hantée par cette idée qu'il valait surtout pas que je retombe enceinte. Donc il y avait eu une espèce de pacte entre nous, on pouvait faire des tas de choses, mais tout ce qui était, qui pouvait effectivement me rendre enceinte était interdit. Et il avait accepté, je dois dire, le cœur léger. Il n'y avait pas de problème. Et nous avons vécu comme ça, en se voyant, en ayant des relations de ce type-là, pendant 6 ans.
Alors que vous étiez en même temps, vous nous l'avez dit hier, aussi avec un autre homme.
Ah oui, j'avais rencontré pratiquement en même temps un diplomate qui avait un haut poste dans la République française et lui qui m'en imposait beaucoup, je dois dire. Parce que Il faut que je revienne quand même un petit peu sur mon éducation religieuse, c'est-à-dire qu'à l'établissement, donc dans cette institution, j'étais quand même la petite fille pauvre. Et je le vivais mal. Je me sentais humiliée et j'avais envie de revanche sociale. Et donc, ce diplomate, que j'aimais bien aussi, hein, représentait l'ascension sociale. Il a été à un moment chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Donc, quand il me recevait, c'était dans les grands salons du Quai d'Orsay. Ça m'en imposait beaucoup. Ensuite, il est allé au ministère de la Justice, où là, place Vendôme, c'était aussi la somptuosité. Donc, j'étais éblouie par ça. Et j'ai donc eu, pendant pratiquement 6 ans, 2 liaisons. Alain était parfaitement au courant de celle que j'avais avec ce diplomate. Le diplomate en question, non, ne le connaissait pas. En réalité, il y avait chez ma grand-mère une gravure qui représentait une très jolie femme avec 2 hommes, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. À sa droite, il y avait un monsieur déjà un peu âgé avec une cassette. Et à sa gauche, il y avait un joli jeune homme, genre poète, qui avait une guitare à la main. Il y avait le poète, c'est-à-dire l'argent, d'un côté l'argent, d'un côté l'amour. C'était un petit peu ça, sauf tout de même que ce n'était pas vraiment tout à fait ça. C'est-à-dire que ce diplomate, il me plaisait aussi. Donc, Alain voulait m'épouser, mais moi, je ne tenais pas tellement à épouser Alain, je voulais épouser l'autre. Mais pour l'autre, je n'étais pas une relation intéressante. Je n'avais pas de relation. J'étais quand même une petite fille roturière. Et finalement, ça s'est défait du côté de ce diplomate que j'ai vu de moins en moins, qui faisait signe de vie de moins en moins, alors que Alain était de plus en plus pressant. Il voulait vraiment qu'on se marie. Donc ça s'est défait comme ça, si vous voulez, sans drame, sans heurts. J'ai jamais connu d'ailleurs de rupture violente, avec des larmes, des cris, ça m'est jamais arrivé. Donc ça s'est défait comme ça. Au fond, facilement, l'un disparaissait pendant que l'autre venait au premier plan de ma vie. Et donc on s'est mariés en 1957, en octobre 57.
Pourtant, Catherine Robbe-Grillet, à l'époque, Alain Robbe-Grillet n'était pas non plus le meilleur parti qui soit. Vous parliez de revanche sociale.
Non, mais quand même, en 57, il avait déjà, d'une part, écrit dans la Nouvelle Revue Française en 53. Je dois dire que quand j'ai vu dans ce numéro de la Nouvelle Revue Française qui reparaissait après la guerre, que j'ai vu son nom, tout d'un coup, je me suis dit « Ah bon, c'est un vrai écrivain, alors ?» Et puis ensuite, il a quand même eu un roman qui est paru en 53, qui s'appelait « Les Gommes ». En 55, il y a eu « Le Voyeur ». Donc, si vous voulez, il y avait quand même une existence d'écrivain. En outre, Jean Paulhan, qui dirigeait la Nouvelle Revue Française, avait un ami qui était dans des boîtes d'assurance. Il construisait des maisons. Et ils ont construit, en 56, cette maison. Et c'est Jean Paulhan. À l'époque, c'était très difficile de trouver un appartement. Et qui est intervenu pour qu'on ait cet appartement. Donc Alain, non seulement était devenu un écrivain, mais en plus, il avait un appartement à Neuilly. Neuilly, en plus, vous pensez, pour quelqu'un qui recherche une revanche sociale, c'était rêvé tout de même. Donc là, il n'y a pas eu du tout d'obstacle. Et rétrospectivement, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu de la chance que le diplomate n'ait pas voulu de moi. Parce que j'ai eu après une vie rêvée, vraiment. Et d'ailleurs, c'est le premier jour de mon mariage que j'ai décidé de commencer mon journal. Je commençais une nouvelle vie. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire ce journal qui est paru sous le nom de « Jeune mariée », où je retrace ma vie du jour où je me suis mariée jusqu'en 62. En 62, j'en ai eu assez, j'ai arrêté d'écrire ça. Bon, alors pour revenir sur mes relations avec Alain, pendant 6 ans, il avait respecté le contrat. Aucun problème.
Pas de pénétration, moi, hein, on parle de pénétration.
Pas du tout. Et on se marie, et tout d'un coup, je me dis, bon, ben maintenant, on peut peut-être passer à des relations dites normales. Et nous sommes partis faire un voyage de noces en Yougoslavie. Nous avons pris un bateau qui longeait la côte d'Almate. Et là, j'attendais quelque chose, si vous voulez, qui ne venait pas. Je m'en suis ouverte et puis c'est là qu'il m'a dit qu'il avait des problèmes. Des problèmes de de défaillance, si vous voulez. J'appelle ça comme ça, c'est pas la peine d'aller plus loin, tout le monde comprend. Et ça a été pour moi, j'ai été sidérée. Et je me suis dit, mais bien sûr qu'il a respecté tout ça. Ça l'arrangeait finalement. Ça a été pour moi. Hein. Et alors lui, pensait que j'avais compris. Et j'avais rien compris du tout. Mais pas du tout. Donc, il s'est senti comme coupable. Il s'est senti malheureux. Et il s'est dit, mais cette pauvre petite, mais c'est épouvantable. Et il m'a donné l'autorisation de faire ce que je voulais. C'est-à-dire, dès ce moment-là, il m'a laissé la corde sur le cou en me disant que je pouvais avoir des amants, que je pouvais mener ma vie telle que je la voulais. Donc, j'ai été parfaitement libre de mener ma vie sexuelle comme je l'entendais. Il n'en restait pas moins que le pivot, l'homme que j'aimais, c'était Alain. Mais il y avait une rupture, une séparation entre la vie sexuelle et la vie sentimentale. Et ma foi, ça s'est très bien passé. Alors, peut-être qu'Alain en était malheureux, peut-être qu'il en était jaloux. Il ne le montrait absolument pas. Non seulement il ne le montrait pas, mais il me demandait de me raconter, de lui raconter ce qui se passait, les gens que je voyais, et je lui racontais. Donc, ça se passait dans l'euphorie, dans le bonheur, dans... Et moi, je vivais ça comme ça, en pensant que j'étais vraiment, de ce point de vue-là, la plus heureuse des femmes, parce que j'avais la liberté de la célibataire et j'avais la protection de la femme mariée. Alain était très protecteur. Il était très protecteur. Il me considérait un petit peu comme sa femme, sa petite fille et ses enfants. Il me considérait un petit peu aussi comme sa petite fille. Donc il fallait qu'il me protège. Alors que rêvait de mieux ? La liberté et la protection. Et d'ailleurs, je dois dire, il y a pas mal de mes amis qui m'enviaient justement à cause de ça. Donc il y avait ça. Mais par ailleurs, il faudrait peut-être que je dise que j'ai eu une vie avec lui passionnante. Parce que quand on s'est connus, j'étais actrice. C'est-à-dire que après avoir fait HEC, où j'étais rentrée, je dois dire, dans les premières au concours, brillante, c'était des études qui ne m'avaient pas beaucoup intéressée. Et donc, j'étais sortie, j'avais mon diplôme, mais j'étais plus du tout dans les premières. Et je m'étais lancée complètement dans autre chose. J'étais rentrée dans un cours d'art dramatique et j'avais donc fait une année, deux années de cours d'art dramatique où on apprend à jouer. Et j'étais rentrée dans une troupe qui était celle d'une jeune compagnie qui s'appelait La Guilde, qui s'est appelée ensuite le Théâtre de l'Est parisien et c'est devenu le Théâtre de la Colline. Donc, en même temps que je fréquentais Alain, j'étais actrice. Et au moment où on s'est mariés, s'est posée la question de « est-ce que je continue en tant qu'actrice ?» Parce que c'est difficile de poursuivre une carrière d'actrice et de se promener, parce que déjà Alain voyageait beaucoup. Il a fallu que je fasse un choix. Et je ne croyais pas trop à ma carrière d'actrice, à cause de ma petite taille. À l'époque, il y avait ce souci, cette idée qu'il y avait des emplois. La jeune première, le jeune premier, la tragédienne. Et dans mon idée, 1m50, je ne pouvais pas jouer les tragédiennes, de toute façon. Ça a beaucoup changé, hein, cette idée-là est complètement tombée. Bon, on ne prendra pas en principe une dame de 85 ans pour jouer une fille de 20 ans. Et encore, ce n'est pas sûr. Mais enfin, c'est tombé, tout ça. Donc, je me suis dit, je préfère vivre avec Alain, sa vie de voyage et de rencontre. Et je ne le regrette pas du tout. On a eu une vie de voyage passionnante parce que il a commencé à devenir assez célèbre à la fin des années 50, début des années 60, d'abord aux États-Unis. Et au début des années 60, on a fait un très grand voyage. On est allé dans 52 universités, on a fait le tour de l'Amérique. En train, en voiture, en Greyhound, qui sont ces bus à prix modique. Et il était très apprécié comme conférencier. Et puis, il y a eu les films. Et les films, ça vous amène à faire des repérages, à voyager pour choisir des endroits de tournage. Et à chaque fois qu'on allait dans un endroit qu'on avait sélectionné pour éventuellement faire un film, on avait affaire à des gens qui connaissaient les lieux. Et qui nous emmenait dans des endroits intéressants. Ces gens, on n'était pas des touristes, si vous voulez. Donc tout ça était passionnant. sans compter les gens qu'on rencontrait. Et quand il faisait des conférences, quand il voyageait professionnellement, il demandait toujours qu'il y ait 2-3 jours après pour se promener dans le pays où on était. Donc, je suis allée depuis Ushuaia, à l'extrême sud de la Patagonie, jusqu'à Tromsø, qui est au-delà du cercle polaire, où en mai, depuis l'hôtel, on voyait la neige qui tombait sur les voiliers, sur la mer. Je suis allée en transsibérien, jusqu'en Corée, c'est-à-dire jusqu'à traverser toute la Sibérie, toute l'Europe, à part les pays baltes, on est allé partout, en train en général. Je dois dire qu'on aimait beaucoup le train. Et en même temps, dans des tas d'endroits qui maintenant ont disparu. Enfin, Palmyre, très endommagée. J'ai vécu près de la place Taksim, où il y a eu tous ces événements en Turquie il n'y a pas longtemps. Et puis, j'ai vécu à côté de la place Tahrir en Égypte, où il y a eu tous ces événements que vous avez connus. J'ai été aussi à Bagdad, parce que les livres d'Alain étaient traduits en Irak, en arabe. Et comme ils ne pouvaient pas nous payer, ils avaient invité Alain à venir passer un moment à Bagdad. Et nous étions dans un hôtel qui s'appelait Palestine, qui était un hôtel méridien, d'où on voyait le Tigre, où il y avait le palais de Saddam Hussein, et puis il y avait aussi, on voyait de ma fenêtre, cette statue qui a été renversée au moment où les Américains ont envahi l'Irak, qui a été, vous savez, une énorme statue de Saddam Hussein qui a été déboulonnée. J'ai l'impression d'avoir comme ça vécu dans des tas d'endroits qui disparaissent, quoi. Par exemple, je suis allée en Syrie, jusqu'à la frontière kurde, dans la partie kurde où on se bat maintenant. J'ai visité Alep, qui est en train de disparaître. Tous ces lieux qui existaient, et puis voilà, ils ne sont plus là. Ça s'effondre. J'ai vraiment eu une sensation du monde qui s'effondre. Peut-être parce que j'ai vécu tout ça, peut-être, je ne sais pas.
Alors Catherine Robrier, j'aimerais revenir peut-être un peu plus sur l'intimité de votre couple avec Alain Robrier, et notamment à travers une date qui est celle du 5 octobre 1958, qui est, selon vos dires, le contrat de prostitution conjugale que Alain avait passé avec vous. Oui. Alors le contrat, déjà ce terme de contrat, on pourrait peut-être revenir dessus, qui est un terme de vocabulaire important dans le monde du masochisme.
Oui, mais je reviendrai dessus, je pense, dans la séance que nous allons faire demain, qu'il y a toujours, en réalité, dans le sadomasochisme, contrat. Un contrat qui est tacite ou pas. Alors là, c'était un peu particulier. C'est-à-dire que les relations avec moi, qui étaient de cet ordre-là, étaient quand même, comment dire, ils voulaient aller plus loin. Et moi, je n'y tenais pas trop. Et alors, il avait inventé cette idée d'écrire un contrat où il définissait exactement ce qu'il demandait, ce que je devais faire, avec le côté très minutieux, quelquefois, de ces mises en scène. Moyennant quoi, il me donnait une somme que je pouvais utiliser de la façon que je voulais, même pour des choses qui lui auraient déplu. Donc, c'était un contrat, je le signais ou je ne le signais pas.
Mais vous n'avez pas signé.
Et je ne l'ai pas signé.
Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas signé ce contrat ?
Je crois que je l'explique. Je n'avais pas envie qu'il me demande ma permission. J'étais, je crois, hostile à l'idée du contrat. J'ai toujours été hostile à l'idée du contrat, d'ailleurs. Bon, il y a un contrat de mariage, évidemment. Mais bon, j'ai dit contrat, j'en ai signé dans le civil. Mais dans ce domaine-là, je n'avais pas envie de signer le contrat. Comme si je préférais être contrainte et qu'il sache à quel moment s'arrêter. Comme si c'était lui qui devait totalement garder la maîtrise, c'est-à-dire deviner, tout deviner, et que moi je n'ai pas mon mot à dire. Je n'avais pas envie de dire oui. C'est difficile pour les gens qui ne sont pas dans ce milieu-là de comprendre ce genre de choses. C'est très difficile. Si vous voulez, cette tolérance qu'on a maintenant pour ce type de pratique, mais qu'en même temps les gens, ils sont sourdement aussi, mais surtout ils ne comprennent pas. Et donc, ce que je vous dis là, c'est somme toute incompréhensible. Comment ? On lui propose un contrat où tout est défini, où elle peut dire ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, elle dit non. Eh bien oui, j'avais préféré qu'il me contraigne, mais en même temps, qu'il sache jusqu'où il fallait aller. Dire oui, c'était comme si, pour moi, tout le désir en partait.
Mais Catherine Rogrier, en quoi consistait exactement ce contrat ? De quoi s'agissait-il exactement ?
Eh bien, il proposait une séance spéciale qui aurait duré 2 heures, où il aurait le droit de faire des traitements, d'aller plus loin qu'on allait, en général, dans nos rapports au jour le jour. Et, comme je l'ai dit, il y avait une rétribution, c'est pour ça qu'il y a le mot « prostitution conjugale », une rétribution assez élevée avec laquelle je faisais faire n'importe quoi, même des choses qui lui auraient déplu. Et donc, je crois que pour voir le style de ce contrat, je pense que ce serait pas mal que je vous en dise le début.
Un extrait, parce que c'est un contrat assez long, de 5 pages.
Oui, voilà. Oui, c'est un... oui, je ne vais pas tout vous lire, ce serait trop long. Contrat de prostitution conjugale. Entre les sous-signés, le présent contrat a été passé en vue de préciser les droits spéciaux du mari sur sa jeune épouse lors de séances particulières rétribuées en espèces, pendant lesquelles la jeune femme subira des mauvais traitements, humiliations et tortures, dépassant les limites assignées aux exercices ordinaires, limite consacrée par l'habitude au courant de la première année du mariage. La durée des séances particulières est limitée à 2 heures, mais pourra, au gré du mari, être inférieure à ce chiffre. Le jour et l'heure de chaque séance seront fixés d'un commun accord par les deux parties. La date une fois choisie, le mari seul pourra annuler le rendez-vous. Il pourra en outre exiger un minimum de 3 séances par mois. Aujourd'hui, à la minute exacte, l'épouse se présentera au rendez-vous dans la tenue qui lui aura été prescrite. Sauf ordre contraire, elle se mettra aussitôt à genoux devant son mari, les yeux baissés, les mains derrière le dos, et restera dans cette posture en attendant que l'on dispose d'elle.
Catherine Rebgrillet, est-ce que dans la terminologie, habituelle, est-ce que cela signifie être soumise ?
Tout à fait, oui. Oui, oui, sexuellement, j'étais tout à fait soumise. C'est-à-dire que je faisais ce qu'il voulait, j'étais passive, et j'y trouvais mon plaisir.
Donc une soumission, et avec toujours cette idée d'un rapport aussi à la souffrance particulier ?
J'étais pas très douée pour la souffrance, je l'ai regrettée d'ailleurs. Mais j'aimais la passivité, j'aimais bien les liens, j'aimais bien qu'on me le dise, qu'il faut que je fasse. Je crois qu'il y a pas mal d'hommes et de femmes et d'hommes qui aiment bien la passivité. Je crois qu'on peut dire que j'étais soumise, oui, ça correspond tout à fait à ça. Mais dans la vie courante, non, pas du tout. Tout ça, c'était strictement lié à la sexualité. Mais dans la vie courante, non. Alain était au contraire très attentif à satisfaire mes désirs, à m'écouter, à me demander ce que je voulais. C'était plutôt moi la reine, c'était plutôt moi qui décidais. Mais c'est très drôle d'ailleurs que cette disjonction entre la sexualité et la vie courante, il y a des gens qui ne comprenaient pas. Et par exemple Simone de Beauvoir, elle ne comprenait pas qu'on pouvait avoir une sexualité de soumise et par ailleurs une vie qui ne l'était pas du tout. Le meilleur exemple était quand même Catherine de Russie. Catherine de Russie qui se faisait fouetter par ses beaux officiers, mais qui par ailleurs était impératrice tout de même. Et ça, il y a des gens qui ne comprennent pas que c'est une dissociation complète.
Vous parlez de Catherine de Russie et de fouet. Dans le livre que vous avez écrit qui s'intitule Alain, il y a d'ailleurs...
Oui, il y a cet exemple.
Il y a des exemples oui. De fouet. Est-ce qu'il y avait des accessoires en particulier qui intervenaient ?
Il y a toujours eu des accessoires traditionnels, vous savez, dans ce genre de relations, qui sont des liens, des chaînes, des fouets. Surtout ça. Il y a toujours de la mise en scène, d'ailleurs. Je pense qu'il y a peu de relations sadomasochistes. Ça peut, hein, puisque tout est dans la tête. C'est-à-dire que c'est on peut parfaitement avoir des relations sadomasochistes simplement par la parole, le geste, sans avoir aucun accessoire. Simplement par le regard, la façon de parler, on se fait obéir. Mais en général, tout de même, dans ce genre de relation, il y a ce type d'accessoire assez connu.
Et vous, il y avait le fouet nommé marital.
Oui. Non, c'était un fouet que j'avais acheté dans une maison d'accessoires canins. Et c'était une époque où on faisait encore de très beaux objets, très souples, mais qui étaient faits effectivement pour attacher à un chien. C'était une laisse de chien. Sinon, les liens, des chaînettes qu'on trouve partout, hein, enfin, qu'on peut acheter au bazar de l'hôtel de ville, tout simplement. On n'a jamais eu affaire à des accessoires spécialisés. Vous savez, d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas de sex shop. Mais maintenant, il y a toutes sortes d'accessoires prévus pour ça. Et je n'ai jamais eu d'attirance pour ça. Je préfère me servir de ce qui est comme ça, qui vous tombe sous la main, en détourner l'usage.
Comme quoi, par exemple ?
Comme quoi ? Par exemple, le couronne d'épines, que j'ai confectionné moi-même avec une branche d'acacia. J'en ai fait un récemment. Alors, avec une branche d'acacia d'Afrique du Sud, qui ont des épines, oh, qui doivent bien avoir 7-8 cm. C'est très spectaculaire, extrêmement solide. Et si vous enlevez le feuillage, qui ne tarde pas à sécher si vous avez coupé une branche, vous faites un objet qui est une série de pointes alternées sur la branche, qui est tout à fait redoutable. Et là, voilà, un objet détourné de son usage. Parce que, évidemment, l'acacia n'était pas fait pour ça au départ.
Et alors, cette couronne d'épines pourrait servir à quoi ?
Écoutez, à mettre sur la tête des gens ou s'en servir pour éventuellement les piquer, les écorcher. Disons que moi, j'ai organisé, enfin, avec Alain d'ailleurs, dans notre maison à la campagne, une chambre qu'on appelle la chambre secrète, où il y a comme ça des accessoires. Mais j'ai pas tellement envie d'en parler. Parce que justement, c'est la chambre secrète. Donc elle doit rester secrète. Elle n'a jamais été photographiée. Elle ne sera jamais photographiée, sauf par moi éventuellement. Parce que je n'aime pas tout étaler quand même. Alors mes accessoires favoris sont effectivement là-bas. Dont, non, le fouet marital n'y est pas. Mais il pourrait y être.
Bon, on va en rester là pour ce soir. Donc merci beaucoup Catherine Robbe-Grillet et à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Céline Duchesnay avec Catherine Robbe-Grillet. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Bernard Quentin, réalisation Vincent Abouchard, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.